Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 26 mai, il y aura deux femmes stars désormais au musée du Louvre, la Joconde et sa directrice. Laurence Descartes est la première femme à prendre la tête du plus grand musée du monde. Elle s'est confiée à Monique Younes. 8 personnes arrêtées dans la Loire et le Rhône une dizaine de jours après l'agression d'un policier à Rive-de-Gier. Il avait été grièvement blessé à la tête. Dans RTL Midi aussi, on fume trop, la consommation de tabac ne baisse plus, elle est même remontée chez les personnes les plus précaires. La Ligue contre le cancer dénonce aussi l'omniprésence du tabac dans 90% des films français. 3 personnes arrêtées en Italie, responsables de la société qui gère le téléphérique qui s'est écrasé à Stresa. Elles sont soupçonnées d'avoir volontairement désactivé le frein d'urgence. L'Euro, ça commence aujourd'hui à Clairefontaine, mais l'arrivée des Bleus aura lieu quasiment à huis clos. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Alors pour l'instant, depuis le début du mois de mai, il y a eu 30% de plus de pluie, 30% de plus que la moyenne, c'était donc ça. Et sur la moitié nord, ça continue aujourd'hui.
Et oui, encore quelques gouttes. Alors, il reste pas grand chose, mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu d'humidité entre la Bretagne et l'Alsace. Au nord de la Seine, un temps plus sec avec le retour d'éclaircies entre deux passages nuageux. Et sur toute la moitié sud, c'est un temps sec, bien voilé sur les Pyrénées, juste légèrement voilé dans le sud-ouest et très ensoleillé entre PACA et Corse. Tout ça sous des températures qui remontent légèrement dans le sud-ouest. Elles sont stationnaires ailleurs. Ça veut dire que ça reste frais au nord. 14 à Cherbourg, 15 à Lille et Strasbourg, 16 à Paris, 20 à Toulouse, 22 à Lyon et 25 à Nîmes.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il interdire les cigarettes dans les films français? Eh bien, vous êtes 68% à dire non, il y a 25% de oui. On attend vos arguments, appelez-nous au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, l'autre question du jour, c'est faut-il rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions? À écouter d'ailleurs l'Académie de médecine, c'est quasiment tout le monde, hein. C'est toutes les catégories sociales et professionnelles en France. On pourra également parler aujourd'hui du sujet de la cigarette dans le film, vous l'avez dit, et de l'entretien au magazine Zadig d'Emmanuel Macron, qui voit dans les Français un peuple très résistant, extraordinairement tenace, mais qui s'embrase sur des coups de colère. Vous nous donnerez votre avis. Et puis, à jamais les premiers, vous le savez, il y a 28 ans, le 26 mai 93, l'Olympique de Marseille devenait champion d'Europe. Si vous souhaitez parler de l'OM il y a quasiment 30 ans, appelez-nous au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, comment se débarrasser de mauvais payeurs? À Launaguet, près de Toulouse, la propriétaire d'un logement a envoyé chez ses locataires qui n'avaient pas versé leur loyer depuis 3 mois des policiers. Enfin, 2 hommes qui avaient l'air d'être des policiers, Patrick Tégéraud.
Oui, ces 2 personnages avaient tous les attributs de leur rôle. Arme en évidence, carte attachée autour du cou, brassard de police et mine patibulaire. Ils brandissaient un exploit d'huissier et ils exigeaient que le jeune couple quitte les lieux dans moins d'une heure, sinon ils seraient placés en garde à vue. La jeune femme se méfie. D'abord, elle sait qu'il y a des caméras de surveillance à l'entrée. Alors elle attire les patibulaires sous les objectifs et discrètement, elle appelle les gendarmes. Car elle sait que les policiers n'ont rien à faire dans cette zone rurale. Les gendarmes arrivent, les 2 sbires discutent, l'air de rien, avec leur soi-disant confrère. Mais un simple coup d'œil aux accessoires suffit à alerter les militaires. Tout est faux. Carte, insigne, arme et lettre d'huissier. Alors ce sont eux qui sont placés en garde à vue. Ils ont expliqué qu'ils avaient été embauchés par la fille de la propriétaire en région parisienne pour faire peur aux locataires car ils avaient 3 mois de loyer en retard. Les 2 sbires, la propriétaire, sont en prison. Sa fille a été placée en garde à vue hier matin. Quant aux locataires, ils vont encore rester chez eux quelques temps.
Récit Patrick Tégéraud. Il avait failli perdre la vie après avoir reçu un projectile sur la tête à Rive-de-Gier. C'était il y a une dizaine de jours. Ce brigadier chef de 51 ans de Saint-Chamond avait dû être opéré en urgence, placé sous coma artificiel. Il ne reprendra pas son travail avant plusieurs mois. Ce matin, 8 jeunes hommes de 17 à 21 ans ont été interpellés à Rive-de-Gier, à Givors et à Saint-Chamond. Comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à eux, Guillaume Chiez?
Eh bien, en explorant 3 pistes. D'abord, celle de la vidéosurveillance. L'endroit même où le brigadier chef a reçu un projectile n'était pas équipé de caméras, mais les alentours, oui. Et les enquêteurs ont pu retracer le parcours de fuite des agresseurs. Ils ont également exploité la téléphonie des suspects, ce qui a permis d'estimer que les 8 jeunes hommes interpellés ce matin étaient effectivement dans les environs au moment de l'agression. Enfin, un gros travail de police scientifique a été engagé depuis 12 jours. Les spécialistes ont pu relever notamment des empreintes digitales et de l'ADN présents sur les différents projectiles, notamment sur les bouteilles en verre ramassées sur place. Reste désormais à interroger les suspects, confronter les versions des uns et des autres pour déterminer d'abord quel projectile a blessé le policier, mais surtout qui est l'auteur de l'agression. Et les enquêteurs disposent désormais de 48 heures pour tenter de répondre à ces questions.
Guillaume Chiez, 3 jours après la terrible chute d'un téléphérique à Stresa, au bord du lac Majeur en Italie, 3 personnes ont été arrêtées, des responsables de la société qu'ils gèrent. L'accident a fait 14 morts et ils sont soupçonnés, Olivier Bonnel, d'avoir volontairement désactivé le frein d'urgence.
Oui, les responsables de la société de gestion du téléphérique savaient que des risques d'accident pouvaient avoir lieu. Ils savaient que la cabine qui s'est écrasée sur les pentes du Monte Motarone circulait sans système de freinage d'urgence en cas de problème. Le responsable local des carabiniers, le lieutenant-colonel Alberto Cigognani, a donné plus de détails.
Le frein n'avait pas été activé. Et pire, ils ont laissé le système qui empêche le frein d'urgence de fonctionner. En fait, avant l'accident, il y avait des problèmes. Ce frein d'urgence s'activait tout le temps. Ça empêchait la cabine de marcher correctement. Donc pour éviter que le téléphérique ne s'interrompe, les responsables ont choisi de laisser un dispositif qu'on appelle la fourchette, qui empêche ce freinage d'urgence.
Impedisce il freno di emergenza di entrare in funzione.
Des propos accablants pour les 3 responsables arrêtés. Des voix se lèvent déjà chez certains politiques pour dénoncer ceux qui ont joué avec la vie des autres pour de l'argent et demandent des peines exemplaires pour les 3 responsables de la société.
Olivier Bonnel, correspondant RTL en Italie. Une femme à la tête du plus grand musée du monde, le Louvre, c'est inédit. Pour la première fois depuis 1793, Laurence Descartes, l'actuelle directrice du musée d'Orsay, succédera le 1er septembre à Jean-Luc Martinez. C'est un choix de l'Élysée pour cette historienne de l'art à la stature internationale. Laurence Descartes a confié sa fierté et ses ambitions à Monique Younès.
Moi, je pense que c'est un symbole fort. Le président de la République et le ministre de la Culture disent quelque chose aussi de la féminisation de ces postes à grande responsabilité. Je note d'ailleurs que les musées européens sont plutôt en avance par rapport aux musées américains. Donc c'est un mouvement qui est normal. Je crois que c'est un rééquilibrage attendu et souhaité. Donc mon projet, c'est de réfléchir avec les équipes du Louvre, bien entendu, à ce qu'est aujourd'hui un musée à vocation universelle comme cette grande institution et de le rendre au fond pleinement contemporain. L'art du passé donne de la profondeur au présent. Toutes les civilisations et toutes les cultures ont leur place au Louvre. C'est sa vocation universelle et qu'on peut très bien imaginer demain qu'une exposition où l'art asiatique est présent soit présentée au Louvre. Je voudrais que des idées de partenariat accrues avec le musée du Quai Branly et d'une manière générale avec les autres grands établissements nationaux. Je pense qu'il y a des merveilleuses choses à faire entre le Louvre et Orsay, entre le Louvre et Pompidou, entre le Louvre, Orsay et Pompidou, pourquoi pas un jour. Nous avons des collections magnifiques, sont les relire, les faire dialoguer entre elles et ces lieux sont faits pour ça aussi.
Laurence Descartes, la nouvelle directrice du Louvre avec Monique Younès. La CFDT reste le premier syndicat du privé avec 26,7% des suffrages aux dernières élections professionnelles devant la CGT qui perd 2 points à 23%. Force ouvrière est 3e d'après les chiffres de la Direction générale du travail. On fait une pause, mais pas une pause cigarette comme on en voit dans les films.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
1 Français sur 4 fume encore chaque jour, près d'1 sur 3 au moins occasionnellement. La baisse du tabagisme s'est arrêtée l'an dernier. C'est ce qui ressort d'une enquête de Santé publique France. Il a même augmenté de 4% chez les personnes dont les revenus sont les moins élevés. Antoine Decarne, vous avez rencontré à Roubaix des fumeurs qui ne sont pas prêts à écraser leurs cigarettes.
Non, et c'est même l'inverse. Devant la devanture rouge de ce tabac presse du centre-ville, Sylvain allume sa cigarette. Pendant le confinement, il admet avoir accentué sa consommation.
D'habitude, on n'a pas le temps de fumer autant de clopes, peut-être. Et là, vu qu'on avait beaucoup de temps, c'est vrai que dans la journée, celle-là, je ne sais même pas pourquoi je la fume, par exemple.
Dehors, au coin de la rue, Ahmed, mégot en main, admet la difficulté de résister à la tentation.
C'est un anti-stress par excellence, quoi. Faut être clair, hein. J'avais l'impression d'être séquestré, moi, personnellement. Ça a été très, très difficile, et ça l'est encore. Hein. On se dépense pas la journée, on dort tard. 1h, 2h du matin, bon, Netflix, tout ça, bon, la cigarette, elle accompagne tout ça et c'est triste, hein, c'est un mauvais compagnon. Hein.
Alors à Roubaix, dans ce contexte de crise sociale, les difficultés ont été accentuées et Mustapha s'est réfugié vers la cigarette.
Tout ce qui se passe, les confinements et tout, j'ai tout perdu à l'heure actuelle, boulot, tout. Du coup, je me suis amené à fumer même le matin.
Avant, c'était pas ça ?
Non, Ma consommation a été multipliée par deux. Puis j'ai ma femme, j'ai mes enfants et tout à la maison, mais anéanti, quoi. Zéro.
Car c'est la population aux revenus moins élevés qui est concernée chez elle. Les fumeurs quotidiens sont passés de 29% à 33% en un an. Une augmentation jamais vue depuis 2016.
Un reportage Antoine de Carna Roubaix. Au même moment, la Ligue contre le cancer dénonce de nouveau la valorisation du tabagisme dans les films français. Plus de 90% comprennent des scènes enfumées. Elles durent 2,6 minutes en moyenne et d'après leur enquête, 58% des jeunes de 18 à 24 ans considèrent qu'il s'agit d'une incitation. D'où la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr. Faut-il interdire la cigarette dans les films français? Qu'en dites-vous, Pascal Pro?
Et pourquoi pas ne pas interdire aussi les westerns, au prétexte qu'ils sont violents? Et pourquoi représenter aussi des courses-poursuites de voitures qui ne donnent pas l'exemple de ce que doit être une bonne conduite? Et pourquoi ne pas interdire une scène de ménage d'un couple? En fait, on n'en finit plus et ça n'a pas beaucoup de sens. Le cinéma observe la réalité, la fiction n'a pas vocation à dissimuler le réel. Moi, je m'inquiète beaucoup de cette époque qui veut tout contrôler et tout moraliser.
Eh ben, on va voir ce qu'en dit le docteur Bernard Basset. Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes l'invité d'RTL Midi, président de l'association Addiction France. D'abord, est-ce que vous pensez vraiment que la présence du tabac dans les films, c'est incitatif ?
Oui, indiscutablement, la présence du tabac dans les films est incitative. C'est vrai que des gens qui sont influents par leur image, par leur talent, le fait qu'ils fument incite la population probablement à les imiter. Alors, il faut quand même avoir en tête que la présence du tabac dans les films est plus importante que dans la réalité. On ne représente pas totalement la réalité dans les films. Il y a en France, comme vous l'avez rappelé, il y a 25% de fumeurs. La présence du tabac dans les films est beaucoup plus importante que la présence dans la vie réelle.
Oui, après c'est la liberté de la fiction aussi.
Après c'est la liberté de la fiction et il faut respecter la liberté des créateurs, on est tous d'accord. Mais à la question, est-ce que la représentation du tabac dans les spectacles incite à fumer? La réponse est indiscutablement oui.
Bon, alors entre 2015 et 2019, on s'était félicité qu'1,8 million fumeurs aient arrêté dans notre pays. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette remontée?
Alors... je crois que effectivement, là, on a vu qu'il y avait une reprise de la consommation de tabac pendant la pandémie, mais ce serait un peu trop facile de le mettre uniquement sur la pandémie, parce que cette enquête de Santé publique France a été faite en grande partie avant le confinement. Alors le confinement n'arrange pas, évidemment, certains de vos auditeurs l'ont dit dans votre reportage, mais l'élément le plus marquant, c'est quand même que les catégories sociales en difficulté fument davantage. Et c'est vrai que...
C'est la crise sociale qui existait avant la pandémie.
C'est la crise sociale qui existait avant la pandémie, dont on a vu des traductions évidemment dans les manifestations de colère qui ont surgi. Et c'est vrai que le tabac peut apparaître comme anti-stress. Bien sûr, c'est une fausse solution, c'est un mauvais compagnon, comme le dit une des personnes dans votre reportage, mais c'est une partie de l'explication quand même.
Mais pourquoi on n'arrive pas à réduire cette inégalité sociale?
Alors malheureusement, cette inégalité sociale, elle existe en France, elle existe aussi dans les autres pays. Dans des pays qui font mieux que nous pour la lutte contre le tabagisme, en Angleterre par exemple, où il y a 14% de fumeurs, il y a beaucoup plus de fumeurs chez les catégories sociales défavorisées, ils sont autour de 19-20%. Donc c'est un phénomène qui est constant dans tous les pays. Malheureusement, le fait d'appartenir à des catégories sociales défavorisées, d'être en précarité, favorise des comportements négatifs pour la santé. C'est une double peine. C'est une double peine.
Évidemment, c'est une double peine. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi. Le paquet de cigarettes, il est désormais à 10 euros. Or, on sait que le prix est dissuasif. À chaque fois qu'il y a une augmentation de prix, mathématiquement, ça fait baisser la consommation. Là, on a l'impression que ça ne marche plus.
Alors, vous savez, le prix, comme vous l'avez rappelé, est largement dissuasif. Ce qui est le plus dissuasif, c'est des augmentations fortes d'un seul coup, et non pas des augmentations progressives. On le voit à chaque fois qu'on fait une forte augmentation, il y a un coup d'arrêt dans la consommation de tabac. Donc, effectivement, il faut jouer l'instrument du prix pour influer sur la consommation.
Donc on peut encore s'en servir, mais il faut faire une augmentation massive dans les prochains mois.
Massive et brutale, c'est vrai. Alors, ce n'est pas la seule mesure. Hein. C'est vrai qu'il faut continuer les campagnes d'éducation, de prévention. Nous-mêmes, on aide les personnes à arrêter avec des moyens qu'on connaît, hein, les gommes, les patchs, le soutien psychologique. C'est un ensemble de mesures. Il faut aussi, je tiens à le souligner, combattre les tentatives de l'industrie du tabac de se réintroduire dans le champ en prétendant vendre des produits moins dangereux, tels que le tabac chauffé, etc. Donc je pense que c'est un ensemble de mesures qui doit être
qu'il va falloir réactiver, en tout cas, ça c'est sûr.
Oui, il faut réactiver, c'est clair.
Merci, docteur Basset. Je rappelle que le tabac fait quand même 75 000 morts par an. On fait une pause et dans un instant, la vaccination qui patine à Marseille.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un relâchement inquiétant sur la vaccination. À Marseille, au Vélodrome, on fait 6 000 injections par jour, mais entre lundi et mardi, 3 000 rendez-vous n'ont pas été honorés. Étienne Baudu, vous êtes au vaccinodrome pour RTL. Comment l'explique-t-on ?
Oui, écoutez, c'est vrai que la file d'attente est beaucoup moins longue et plus étirée que ces dernières semaines au pied du stade. Le contre-amiral Patrick Augier, qui commande le bataillon des marins-pompiers de Marseille en charge du vaccinodrome, est un peu perplexe quand même.
C'est le beau temps, il y a eu peut-être le week-end, peut-être un effet déconfinement dessus, que ça va revenir. En tout cas, on est là.
Est-ce que ça vous inquiète, ça, ce petit relâchement, s'il durait un peu trop ?
Ben, ce qui peut m'inquiéter, c'est qu'on vise de vacciner 60% de la population à la fin de l'été et que je ne connais pas les conséquences si on arrive à peine à en vacciner 35-40%.
L'amiral qui avance une autre inquiétude.
À peu près 10% des gens ne viennent pas faire leur seconde dose, c'est-à-dire qu'ils se sentent protégés avec une dose, ce qui n'est pas le cas. C'est dommage d'être protégé à 20-30% alors qu'on pourrait l'être à 90% avec un vaccin Pfizer qui en même temps est très efficace contre les variants connus aujourd'hui.
Du coup, comme Benoît Payan, le maire de Marseille, le patron des marins-pompiers, bat le rappel des troupes.
J'invite tous les Marseillais à venir se faire vacciné au stade de Vélodrome sans limite d'âge, donc à partir de 18 ans et sans rendez-vous s'il le faut.
Car il faut bien l'avouer, ce midi, il y a plus de monde sur les terrasses que devant le Vélodrome.
Étienne Baudu sous les terrasses, au soleil à Marseille, ce qui n'est pas le cas ici. Merci. Pour accélérer le mouvement, l'Académie de médecine recommande de rendre la vaccination obligatoire pour tous ceux qui sont en contact avec le public. Le gouvernement refuse, il préfère privilégier le dialogue. D'ailleurs, aucun pays au monde ne l'a fait. C'est la montée des marches aujourd'hui, non pas à Cannes, mais à Clairefontaine. Les joueurs de l'équipe de France se retrouvent à partir de 13h pour préparer l'Euro qui démarre le 11 juin. Mais il n'y aura pas des dizaines de photographes pour faire crépiter les flashs, notamment à l'arrivée de Karim Benzema. Non, Philippe Sanfourche, on est en mode Covid là aussi.
Eh oui. Moins chaleureux, mais plus pratique pour maîtriser la communication. Un balai de taxi pour seules images s'engouffrant dans un centre de Clairefontaine muré. Protocole sanitaire oblige. Karim Benzema est arrivé il y a une petite trentaine de minutes. Et les 20 autres joueurs attendus ce jour vont donc investir les lieux au calme. Programme très léger. Hein. Aujourd'hui, premier test PCR, un peu de VTT et plateau télé ce soir pour regarder Paul Pogba et Manchester United affronter Villarreal en finale de Ligue Europa.
Bon, ça ressemble à une prison dorée. Ça veut dire qu'on va apercevoir aucun joueur avant le début de l'Euro le 11 juin ?
Alors non, je vous rassure, les portes vont s'entrouvrir progressivement, le temps déjà de tester tout le monde, hein, de créer la bulle sanitaire. Peu de joueurs d'ailleurs sont vaccinés ou au mieux n'ont reçu qu'une dose à ce jour. Demain, une conférence de presse en présentiel permettra à deux joueurs de dialoguer directement avec les médias. Mais cet après-midi, par exemple, la première prise de parole de Didier Deschamps se fera en visioconférence. Le sélectionneur concentré surtout, on l'imagine, sur l'accueil de ses troupes pour bien expliquer en interne notamment le pourquoi et le comment du retour d'un certain Karim Benzema.
Un certain. Merci Philippe.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons dans le Finistère, à Plounéour-Ménez, près de Morlaix, chez un disquaire atypique. Présentez-le-nous, Nicolas Bobby.
Je suis dans la montagne bretonne devant une discrète station-service qui semble abandonnée, plus de pompe, mais avec une inscription sur la vitrine, disquaire. À l'intérieur, je découvre le paradis du vinyle de David Bazin.
Non, il n'y a pas d'essence, mais il y a du disque. Beaucoup de disques. Je cherchais un local pas trop loin de chez moi, pas trop paumé dans la brousse. Je trouvais sympa le local, lumineux. Je propose toutes sortes de genres de musique. Il y a par exemple cet album de Hockey Témise. Moi, j'essaie de proposer un peu de tout, enfin, rien de trop commercial. On doit faire le plein de disques.
Julien fouille dans les bacs et carbure aux souvenirs de famille.
J'ai les vinyles de la collection familiale et puis j'ai envie d'enrichir avec des musiques que j'écoutais ado. Donc, je suis à la recherche de musiques de mon enfance, du rock, du jazz, de la new wave.
Sébastien est un habitué.
Des disques des années 60, 70, du jazz principalement et puis un petit peu de fusion. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui passent et pensent faire le plein et puis ils repartent aussitôt.
Pour remplir son réservoir, il faut aller dans le bourg voisin, appeler Bert Christ.
Nicolas Bobby, c'est vrai que les vinyles, ça revient très à la mode en ce moment, en particulier chez les ados. Pascal.
C'est vrai que le son d'un vinyle est inégalé.
Extrêmement
différent.
Vous êtes
d'accord,
oui, on est d'accord.
Christelle.
Le MP3 écrase le son.
Les questions du jour reflètent finalement la société d'aujourd'hui. Faut-il rendre la vaccination obligatoire ? Forcément, c'est une injonction, c'est une liberté en moins. Et faut-il supprimer la cigarette dans les films ? Vous voyez ? Donc c'est l'époque. Après, il y a toujours des bonnes justifications. Dans les deux cas, franchement, il y a toujours des bonnes justifications. Et ces arguments s'entendent d'ailleurs. Évidemment, comme l'a dit monsieur le tabacologue,
c'est incitatif.
C'est incitatif, bien sûr. Mais c'est aussi incitatif quand on voit quelqu'un qui roule vite, je le disais tout à l'heure, à rouler vite, peut-être. Donc, il faut aussi interdire les voitures dans les films. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver toujours le juste milieu. L'art de la nuance, dont je suis quasiment un des prophètes, comme vous le savez.
C'est ça, exactement.
Un des leaders de l'art de la nuance.
Vous le dites beaucoup mieux que moi. Et de l'autodérision, quand même.
Bon, donc, on pourra en parler avec les auditeurs tout à l'heure, juste après la météo, qui est sans nuance, elle.
Appelez-nous au 32. Oui, sans nuance. Enfin, bref, quand même.
Oui.
Il y a des nuages, mais il y a aussi un peu d'éclaircies.
Ah bah oui, de belles éclaircies, même entre l'Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Du beau temps aujourd'hui. Alors, c'est juste légèrement voilé dans le sud-ouest. Plus voilé, c'est vrai, au pied des Pyrénées. Puis, on pourra avoir une petite averse possible. Mais alors, vraiment sur le relief, et c'est très ensoleillé entre PACA et Corse, toujours avec un peu de vent. Sur la moitié nord, là, c'est vrai que le temps est plus maussade. On a une bande bien nuageuse, faiblement pluvieuse entre la Bretagne, le centre et l'Alsace. Au nord de la Seine, un temps plus sec, entrecoupé d'éclaircies. Tout ça sous des températures alors qui remontent dans le sud-ouest, elles restent stationnaires ailleurs. Donc ça veut dire que c'est encore frais. Au nord, 13 à Strasbourg, 14 à Orléans, 15 à Rennes et Reims, 16 à Paris, 20 à Bordeaux, 21 à Clermont-Ferrand et Auch, 24 à Perpignan et 25 à Nîmes.
Et demain, ça s'améliore doucement.
Doucement, c'est vrai, parce qu'il restera, Christelle, encore pas mal de nuages au nord. Non. Alors surtout si entre la Bretagne et Pays de la Loire, en allant vers le Jura, quelques gouttes également sur l'est. Mais dans l'après-midi, ces nuages vont se morceler et laisser passer de belles éclaircies. Et puis alors sur toute la moitié sud, un beau soleil toute la journée, tout ça sous des températures qui vont remonter même au nord. Enfin, on sera et on sera
on
même au-dessus des normales au sud. 16 à Cherbourg, 18 à Lille et Nancy, 20 à Paris, on est sur des températures de saison, 22 à Lyon, 25 à Agen, 26 à Auch, 27 à Marseille et ça continue, 28 à Nîmes.
Ah bah bravo, voilà, vous commencez à nous faire rêver quand vous voulez. Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole.